France Musique. Musicopolis. Le Requiem de Saint-Saëns, une communion avec les morts. En 1921, quasiment au terme de sa longue vie, Camille Saint-Saëns écrit à son ami l'astronome Camille Flammarion, auteur d'ouvrages autour de « La mort et son mystère ». Je cite Saint-Saëns. « C'était en janvier 1871, au dernier jour de la guerre. J'étais aux avant-postes, à Arcueil-Cachan. Nous venions de dîner d'un excellent cheval dont nous avions fait un bon pot-au-feu. Et nous avions récolté beaucoup de pissenlits dont la racine à cette époque de l'année est très développée. En somme, dîner qui nous avait tous satisfaits, et nous étions ce jour-là aussi gais qu'on pouvait l'être en pareille circonstance. Quand tout à coup, j'entendis chanter dans ma tête la plainte musicale d'accords douloureux, dont j'ai fait depuis le début de mon requiem, et j'éprouvai au fond de mon être le pressentiment qu'un malheur m'arrivait. Une angoisse profonde m'accabla. » C'est à ce moment même qu'était tué Henri Regnault, auquel j'étais attachée par la plus vive amitié. La nouvelle de sa mort m'a causé un tel chagrin que j'en suis tombée malade et j'ai dû rester 3 jours au lit. J'ai donc éprouvé la réalité de la télépathie avant l'invention de ce mot. Comme tu as raison de penser que la science classique ne connaît pas l'être humain et que nous avons tout à apprendre. Si la première idée musicale du Requiem de Saint-Saëns date de la mort du peintre Henri Regnault en 1871 pendant la guerre franco-prussienne, ce sont d'autres événements qui vont l'amener à composer la partition entière. Avançons jusqu'en 1877. Au printemps 1877, Camille Saint-Saëns est en passe de devenir le compositeur français le plus joué dans les concerts. Il ne se passe pas de semaine sans qu'on entende à Paris, en province ou ailleurs en Europe, un de ses concertos, un de ses poèmes symphoniques, une de ses mélodies, une de ses pièces de musique de chambre. Voici près de 20 ans que Saint-Saëns est l'organiste de la Madeleine, l'une des paroisses les plus riches de Paris, où il accompagne les 3 services du dimanche sur le magnifique instrument de Cavaillé-Coll. Saint-Saëns s'est marié sur le tard et il a à présent un petit garçon, André. Il vient de s'installer avec sa famille et avec sa mère dans un nouvel appartement, rue Monsieur le Prince, dans le quartier de l'Odéon.
Musique.
La Gazette musicale de Paris du 15 avril 1877 nous informe. Monsieur Camille Saint-Saëns vient de donner sa démission des fonctions d'organiste de la Madeleine qu'il remplissait depuis près de 20 ans. Retenu à Paris par la périodicité de ses occupations, il ne pouvait accepter que rarement les engagements qu'il appelait en province et à l'étranger, comme virtuose et comme compositeur. Monsieur Théodore Dubois, professeur au conservatoire et maître de chapelle de la même église, échange ses fonctions contre celles d'organiste du grand orgue. Monsieur Camille Saint-Saëns vient de partir pour une tournée de concert à Lyon, dans le sud-est de la France et en Suisse. En 1877, Camille Saint-Saëns a suffisamment d'engagement à l'extérieur pour pouvoir se passer de son poste régulier d'organiste à la Madeleine. C'est certainement un soulagement, quoiqu'il ait pris l'habitude de se faire remplacer par Gabriel Fauré, Eugène Gigoux ou Charles-Marie Vidor, et quoiqu'il ait trouvé du plaisir à l'exercice. Il écrit dans son recueil de souvenirs « L'école buissonnière » « Pendant les quelques 20 ans que j'ai tenu l'orgue de la Madeleine, j'ai improvisé presque toujours », me laissant aller au hasard de ma fantaisie. Et ce fut une des joies de mon existence. Mais il y avait une légende, poursuit Saint-Saëns. J'étais le musicien sévère, austère, et l'on avait fait croire au public que je jouais continuellement des fugues, si bien qu'une jeune fille, en passe de se marier, vint me supplier de ne pas en jouer à sa messe de mariage. Il est vrai qu'une autre me demanda de lui faire entendre des marches funèbres. Elle voulait pleurer à son mariage, et n'en ayant nulle envie, comptait sur l'orgue pour lui faire venir les larmes aux yeux. Mais ce fut un cas unique en son genre. D'ordinaire, c'était de ma sévérité qu'on avait peur. Cette sévérité était pourtant bien tempérée. Un jour, un des vicaires de la paroisse se mit à m'endoctriner sur ce point. Le public de la Madeleine, me dit-il, est composé en grande majorité de personnes riches qui vont souvent à l'opéra comique. Elles y ont contracté des habitudes musicales qu'il convient de respecter. Monsieur l'abbé, lui répondis-je, quand j'entendrai dire en chair le dialogue de l'opéra comique, je ferai de la musique appropriée, mais pas avant. Le 20 mai 1877 tombe une nouvelle dramatique. Le Figaro informe ses lecteurs que « Monsieur Lelibon, directeur général des postes, est mort subitement à son domicile particulier quai du Louvre ». Or, ce monsieur Lelibon, 53 ans célibataire, est un ami très cher de Camille Saint-Saëns, son témoin de mariage. On apprendra le lendemain qu'il s'est suicidé, souffrant depuis longtemps de douleurs néphrétiques terribles. Il s'est tiré un coup de pistolet à la tempe droite. Albert Libon a laissé un testament dans lequel il lègue à Saint-Saëns une somme de 100 000 francs destinée à le soustraire à la servitude de l'orgue de la Madeleine et à lui permettre de se consacrer exclusivement à la composition musicale. L'héritage d'Albert Libon tombe à point nommé pour Saint-Saëns, alors qu'il vient justement de laisser tomber son poste à la Madeleine. Ceci dit, sa musique est plus que jamais présente et partout. En février, on a donné la danse macabre au Châtelet au Concert Colonne, puis le trio en fa à la salle Erard. Mi-mars, le couple Jaël donne le quatuor en si bémol et la danse macabre. Deux jours plus tard, on applaudit des extraits de Samson et Dalila, qui n'a pourtant pas encore été créé. Et cela en l'absence de Saint-Saëns qui, lui, est attendu à Vienne et à Pest. On joue aussi sa danse macabre, encore elle, à Liège, où elle est bissée. Son concerto pour violoncelle à Prague, son deuxième concerto pour piano à Baltimore et encore un trio à Buenos Aires. Bref, on s'explique mieux qu'il ait lâché la Madeleine. La grande affaire de la fin de l'année 1877 pour Saint-Saëns, qui est toujours par Mont et par Vaux à jouer ou diriger sa musique, c'est la création, au mois de décembre à Weimar, de son « Samson et Dalila ». Cette création a été rendue possible par le soutien de Liszt, qui sans même voir la partition avait dit à Saint-Saëns « Terminez votre opéra, je le ferai jouer ». En effet, si les chefs français jouent volontiers la musique de Saint-Saëns, les directeurs d'opéra sont nettement plus frileux. Ils ne veulent représenter que des ouvrages qui ont déjà fait leurs preuves. Le succès de Samson est grand en Allemagne et c'est une petite pierre supplémentaire sur le chemin qui le mènera jusqu'à Paris. Oh! Au début de 1878, la vie de Saint-Saëns continue, trépidante, toujours émaillée d'exécution de ses œuvres. La danse macabre ayant le pompon, talonnée de près par quelques extraits de Samson et Dalila, Bacchanal en tête. En mars, de manière fort chevaleresque, notre Camille dirige deux concerts avec chœur et orchestre consacrés aux œuvres de Liszt, qu'il a si bien soutenu pour son opéra. Dans la première version de son testament, Albert Libon, l'ami de Saint-Saëns, avait soumis le versement des 100 000 francs à la composition d'un requiem qui devait être joué pour le premier anniversaire de sa mort. Quoique Libon ait abandonné cette exigence, Saint-Saëns, lui, voudrait vraiment honorer son ami. Mais l'année passe très vite en concerts, compositions, créations diverses et la date anniversaire, le 20 mai, approche. Au mois d'avril, notre compositeur se retire en Suisse dans un hôtel tranquille de Berne. Il tient son éditeur, Auguste Durand, au courant de l'avancée du travail. Le 4 avril. J'ai commencé mon Kyrie ce matin. Il sera fini demain, je vous l'enverrai après-demain. Le 6 avril. Ne vous effrayez pas, ce requiem sera très court. Le 8 avril. Vous avez dû recevoir les deux premiers numéros. Le troisième est fait et le quatrième est en train. Quand j'ai voulu écrire le quatrième, aura supplex, j'ai été bien effrayée, je ne savais comment m'y prendre. J'ai été obligée de faire comme Liszt, de mettre des mesures à 2 et à 3 pêle-mêle. Enfin, le 9 avril, c'est de la fringale, je travaille avec une ardeur que rien n'égale. Le 26 mai 1878, la revue et gazette musicale rend compte de l'exécution de la nouvelle œuvre entendue le 22. En commençant avec une mention qui prouve bien que pour Saint-Saëns, il s'agissait avant tout d'une affaire privée. Sans réclame préalable, dit le journaliste, sans même un simple avis au public, M. Camille Saint-Saëns vient de faire entendre une œuvre considérable de sa composition. C'est un requiem pour orchestre, orgue, chœur et soli qui a été exécuté à Saint-Sulpice mercredi dernier pour l'anniversaire de la mort de M. Libon, directeur général des postes et ami dévoué de M. Saint-Saëns. Le caractère général de ce requiem est une tristesse qui n'a rien d'âpre ni de désespéré. Le sentiment varie d'intensité naturellement, et s'il est parfois un peu trop adouci, on le trouve presque toujours vrai et profond dans sa sobriété démonstrative. L'Agnus, poursuit l'article, morceau final où se trouve le motif du Kyrie, a une introduction orchestrale fort longue, mais il est d'un très beau caractère dans sa simplicité mélodique et rythmique, et termine sur une grande et forte impression, un ouvrage que M. Saint-Saëns pourra certainement compter au nombre de ses meilleurs. Ce qui lui donne une place d'honneur parmi les requiem composés jusqu'ici. L'exécution nous paraît avoir bien marché sous la direction de l'auteur. Ce qui en ressortait le mieux, c'était les deux belles voix de messieurs Vernier et Hoguez, qui ont chanté leurs soli avec un excellent sentiment. Un enfant de la maîtrise de Saint-Eugène chantait les soli de soprano. L'orgue, dont le rôle est assez important dans la partition, était tenu par monsieur Vidor. Un grand nombre d'artistes étaient venus entendre la nouvelle œuvre de Saint-Saëns, qui, nous assure-t-on au dernier moment, ne sera pas exécutée de nouveau avant l'année prochaine, pour le second anniversaire de la mort de M. Libon. Toutefois, elle sera publiée auparavant. Agnus du Requiem de Camille Saint-Saëns, le chœur du Hertfordshire, l'orchestre philharmonique de Londres sous la direction de Geoffrey Simon. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Emmanuel Armin pour le mixage et Élise Kravets pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.